Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, encore une industrie à sauver. C'est l'aéronautique qui mobilisera les milliards de l'État annoncés aujourd'hui parce qu'avec la crise du Covid, il n'y a plus de commandes d'avions. Explication dans un instant. George Floyd inhumé aux États-Unis aujourd'hui et nouvelle manifestation contre le racisme et les violences policières en France. Au lendemain des annonces de Christophe Castaner pour changer certains comportements parmi ses troupes. On en reparlera avec votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, il s'agit, du président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Damien Abad, dans le grand entretien du 7-9. Le standard est ouvert, amis auditeurs. Intervenez au 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, la reprise prochaine des cures thermales, certaines mises sur les convalescents du Covid. La fin d'une histoire de 8 ans entre Thiago Silva et le PSG. Le club se sépare de son capitaine. Et le dernier est Elena Ferrante, la romancière italienne, on y retrouve Naples et l'adolescence.
France Inter.
18 milliards pour le tourisme, 8 milliards pour l'automobile et combien pour l'aéronautique, l'une des dernières industries de pointe en France. Laminée par des compagnies aériennes qui ne commandent plus d'avions, 30 000 emplois seraient menacés dès cet été. Airbus, Safran et tous leurs clients dans l'attente, comme Debitex qui produit de la mécanique de précision à Brive-la-Gaillarde. Tout allait très bien avant le Covid, puis tout s'est arrêté, explique Éric Dupinet, le patron de l'entreprise.
Il y avait quand même des gros programmes qui démarraient, notamment les moteurs qui équipent justement les fameux A320 et 737 qui sont malheureusement sur le tarmac aujourd'hui, où on avait des quantités à produire phénoménales. On était sur des 3-4 000 pièces par an. Et donc du coup, on nous a demandé beaucoup d'efforts en investissement. Les machines qu'on a achetées récemment étaient pour ça. L'extension à quelque part était pour ça. Donc effectivement, ça a du sens lorsqu'on se projette sur 10-15 ans, ce qui était d'ailleurs l'objectif des nouveaux programmes moteurs qui consistaient à remplacer pas loin de 25 000 moteurs qui circulaient sur la planète, qui sont à mettre au rebut parce que trop vieux. Et là, d'un seul coup, bonjour, on me dit, ça s'arrête. On est tous consommés dans notre carnet de commandes, et là, on se dit, quid de la suite.
Le patron de l'entreprise Debitex, 28 salariés, 2 millions de chiffres d'affaires par an, au micro de Nicolas Blanza de France Bleu Limousin. La filière aéronautique fait vivre 195 000 personnes en France et attend donc beaucoup de l'État, qui devrait de nouveau lâcher plusieurs milliards, Grégoire Le Callot.
Refusant de confirmer le chiffre de 10 milliards d'euros paru hier dans la presse, le gouvernement assure que son plan de soutien à l'aéronautique est plus haut. Mais le ministère de l'économie précise que le prêt de 7 milliards d'euros accordé à Air France est compris dans l'enveloppe globale, car aider Air France, dit-il, c'est aider tout le secteur, inquiétant pour Ludovic Andrevon, président de la CFE-CGC Aéronautique.
Si vous lâchez 7 milliards à Air France, alors d'abord qui est un prêt garanti, je crois, de mémoire, on va pas loin. Donc, j'espère que c'est dissocié dans l'esprit du gouvernement. Il y a l'aide à Air France, de la même manière que l'État allemand va aider Lufthansa, etc. Et puis, il y a l'aide à l'industrie. Ce sont deux choses différentes.
Le gouvernement veut fixer des objectifs innovants, mais lointains. Un avion hybride en 2027, un avion vert en 2035. Mais d'ici là, sans une aide conséquente, il n'y aura plus d'usines, plaident les constructeurs. Ils demandent à l'État de les accompagner le temps d'étaler la tempête, notamment dans des projets intermédiaires comme des moteurs électriques pour les phases de roulage au sol ou une nouvelle version de l'Airbus A320 pour des vols long courriers plus économes. En attendant, les plans sociaux menacent, comme chez De Richebourg Aéronautique à Toulouse, où 700 emplois risquent de disparaître.
L'aéronautique, secteur en très grande difficulté, qui va pouvoir continuer à bénéficier du chômage partiel, a promis la ministre du Travail. Eux se retrouvent au chômage tout court, les 137 salariés du centre d'appel Euro-CRM de Chauny dans l'Aisne, qui travaillaient pour Engie, Canal+, ou Orange. Fermeture brutale et licenciement. Les salariés en ont été informés le 28 mai. Ils sont passés prendre leurs affaires le lendemain, puis l'entreprise a été liquidée, explique la CFDT, qui relève que cette fermeture a lieu juste après l'ouverture d'un centre à Madagascar.
18h ce soir, Florence, manifestation en France au moment des obsèques de George Floyd aux États-Unis.
Rassemblement contre les violences policières et le racisme après les gages donnés par le ministre de l'Intérieur hier, l'interdiction de la méthode d'étranglement lors des interpellations et la suspension des policiers et des gendarmes au comportement raciste. À Paris, c'est SOS Racisme qui est à l'initiative. Rendez-vous est donné place de la République dans la foulée des manifestations organisées par le comité Adama. Parole de militants recueillis par Yann Gallic.
Dans les bureaux de SOS Racisme, ils sont une vingtaine à préparer la manifestation de ce soir avec effervescence. Ils fabriquent les pancartes et peaufinent les derniers slogans.
C'est un slogan qui va tourner autour du racisme, Le racisme nous étouffe, c'est vraiment ce qui s'est passé quoi, en fait, avec George Floyd.
Lycéens ou étudiants, pour la plupart, ces militants ont presque tous moins de 30 ans, comme Faridi. Originaire de Mayotte, il est bénévole à SOS Racisme depuis 5 ans.
Ça fait très longtemps qu'on est posé sur ces questions contre les discriminations et le racisme. Beaucoup nous ont négligés, mais aujourd'hui, le monde voit que le monde se soulève et la jeunesse se soulève. C'est très prometteur pour l'avenir.
Et la mobilisation commence à produire ses effets avec les annonces du ministre de l'Intérieur sur les violences policières. Safia Aït Ouarabi est la vice-présidente de SOS Racisme.
Il y a un pas qui se fait, notamment au niveau de l'interdiction de la fameuse technique d'interpellation qui est controversée. Cependant, moi, je ne peux pas prendre l'annonce de M. Castaner comme une victoire, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. La mort de George Floyd a cristallisé des colères en France, nous a fait rappeler que nous aussi, en fait, on a des cas en France, qu'en fait, ce ne sont pas que des cas isolés. Moi, en tant que jeune et française, je mérite, et aussi tous les autres jeunes, on mérite, comme les policiers, d'avoir une meilleure police.
Il faut donc maintenir la pression sur le gouvernement, explique Safia Aït Ouarabi, et continuer à manifester, dit-elle, pour mettre fin aux violences policières.
Et d'autres manifestations sont annoncées à Lille, Grenoble, Dijon, Amiens, Poitiers ou Angers, au moment même où George Floyd sera inhumé dans sa ville natale de Houston, au Texas. Cet homme noir, étouffé par un policier blanc, c'était il y a 2 semaines à Minneapolis. Depuis, sa famille a vu déferler une immense vague de protestations aux États-Unis et partout dans le monde, des témoignages de peine et de colère, et une visite très politique hier, celle du candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden.
Mon épouse, Jill, et moi, on leur a parlé de la difficulté du deuil. Mais c'est encore plus dur de le faire quand le monde entier vous regarde. C'est une famille incroyable. Sa petite fille était là. Elle voulait savoir si son papa allait changer le monde. Je pense qu'il va changer le monde. C'est l'un des tournants les plus importants de l'histoire américaine en matière de liberté, de droit civique et du droit des gens à être traités dignement.
Joe Biden sur CBS. Hier, le policier qui a étouffé George Floyd a comparu pour la première fois devant la justice dans sa combinaison orange de prisonnier. Sa caution libératoire a été fixée à 1 million de dollars. Les États-Unis face à une nouvelle vague de lutte pour l'égalité dans un contexte de crise économique. Le Covid a eu raison de 11 ans de croissance. Là-bas, le pays est officiellement entré en récession. 43 millions d'Américains se sont inscrits au chômage ces 2 derniers mois. Mais malgré tout, Wall Street a repris des couleurs. L'économie qui se déconfine fait remonter le Nasdaq, l'indice des entreprises de technologie, qui vient d'effacer ses pertes de la crise. Et de Wall Street, on passe à la City pour notre série quotidienne. Comment ça se passe dans ce quartier de Londres que les banquiers et les traders ont déserté? Les open space restent vides, Antoine Gignot, et ça pourrait bien durer.
En bas des immeubles, les costumes 3 pièces ont presque disparu. La City ne compte plus qu'une poignée de banquiers et de traders qui profitent du déconfinement progressif pour revenir dans les locaux. Fabrice Montagnier est l'économiste en chef de Barclays.
Ça fait énormément de bien de ressortir un peu plus loin que les limites du quartier et de voir d'autres gens. La grande, très grande majorité des collaborateurs travaillent de chez eux. C'est sans doute une des flexibilités qui va rester. On se rend compte qu'on arrive à reconstruire des passerelles, des moyens de communication, et ça marche somme toute plutôt bien.
Et c'est un mouvement général. JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC ont ces dernières semaines renvoyé leurs employés chez eux ou vers des sites en banlieue. Plusieurs dizaines d'entreprises envisagent de quitter le coûteux centre-ville. Karl Larkin est responsable d'une plateforme de location de bureaux.
C'est très très vide. Ces dernières semaines, c'était vraiment une ville fantôme. Nous avons 322 bureaux à la City et on est passé d'un taux d'occupation de 80 à 60% à peine. Et il n'y a pas plus de 2% des employés qui sont vraiment présents dans les bureaux.
Diminution radicale aussi du nombre de voitures pour faciliter la distanciation sociale. Le maire de Londres a décidé d'agrandir les trottoirs et de créer des pistes cyclables en limitant la circulation. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
En Ile-de-France, les terrasses ne font pas recette. Les cafés, les bars et les restaurants doivent pouvoir rouvrir leurs salles rapidement, demande l'UMI, principal syndicat du secteur, qui réclame aussi l'allègement du protocole sanitaire dans tout le pays pour retrouver de la rentabilité. Côté bain de boue et peignoir blanc, les établissements thermaux préparent leur réouverture d'ici quelques jours. Fermés depuis 3 mois, eux aussi espèrent se refaire une santé financière en accueillant, pourquoi pas, des convalescents du Covid. Comme au terme de Jonzac en Charente-Maritime, spécialisé dans le traitement des voies respiratoires. Reportage sur place de Philippe Lefebvre.
Jonzac est une sous-préfecture plutôt discrète, mais chaque année, dès le mois de février, la population augmente très rapidement car cette bourgade de 3400 âmes possède un institut thermal David Guilbeault est le directeur de l'Office du tourisme.
En pleine saison, on a en effet au moins 1500 curistes qui viennent s'ajouter à la population locale.
Et si le centre thermal espère pouvoir recevoir à nouveau des curistes à la fin du mois, il compte aussi sur une nouvelle clientèle d'anciens malades du Covid, car ici on traite les pathologies liées aux voies respiratoires. Certains y verront une sorte d'opportunisme, ce que réfute Serge Espin, le directeur du centre.
Le terme opportunité économique est peut-être un petit peu ingrat, mais effectivement, on a vu qu'il y avait certaines séquelles qui étaient lourdes en termes respiratoires. Accueillir des personnes qui ont souffert pendant nombreuses semaines, voire nombreux mois de cette pathologie, leur permettra prioritairement d'être dans un cadre où on va prendre soin d'eux.
Et ici, on se donne les moyens d'attirer de nouveaux touristes en leur remboursant une partie de leur séjour.
On va leur demander une facture pour deux nuits d'hébergement, un menu dans un restaurant traditionnel et une facture sur un site de visite. Et donc, on leur versera la somme de 100 euros.
De quoi attirer les vacanciers dans cette Charente-Maritime rurale, loin des plages et de Fort Boyard.
Philippe Lefebvre est dans une France qui se déconfine. Il reste un endroit où le maintien des mesures sanitaires, des mesures barrières reste plébiscité. Ce sont les transports en commun, où le masque est toujours obligatoire et où les brigades de sûreté qui font respecter les consignes ne constatent que très peu de relâchement. Nous voilà donc en patrouille avec Mathilde Dehimy dans le métro parisien.
Les contrôles se font dès l'entrée de la station.
C'est bon, monsieur. Bonne journée.
Un premier voyageur remet précipitamment son masque.
Le masque, c'est avant de rentrer dans la station, d'accord ? C'est pas quand vous nous voyez, ok ?
C'est le seul signe de relâchement de ces derniers jours. Un masque qui prend ses aises, le nez au vent, est donc moins utile, rappelle Farid de la brigade de sûreté de la RATP.
Ça n'a pas d'efficacité totale, donc on lui demande de le remettre pour protéger son nez et sa bouche. Il y a des règles à respecter, on doit être intransigeant là-dessus. C'est important.
95% des voyageurs ont intégré les nouvelles mesures sanitaires.
Donc vous n'avez pas de masque, pas d'attestation et un titre de transport non valide, c'est ça, hein ?
Dans cette rame de RER A, fournie mais pas bondée, deux voyageurs sont verbalisés.
C'est ma faute, j'ai pas vu le temps passer dans le train. Il n'y avait personne au début, donc ça m'a pris en larmes.
135 euros. Durant deux semaines, on a été très pédagogues. On a informé nos voyageurs.
Là, pour le coup, dès le matin, ça fait mal.
Les agents sont assermentés pour dresser les PV. Stéphane Gouault, directeur de la sûreté de la RATP.
On a à peu près établi 3400 procès-verbaux. Et on a reconduit, c'est-à-dire invité les gens à quitter les lieux parce qu'ils n'étaient pas porteurs de masques, plus de 10 000 personnes.
Il reste difficile, par endroit, de respecter la distanciation sociale. Mais ailleurs, les rames sont presque vides. Moins d'un tiers des usagers habituels ont repris les transports en commun franciliens.
La RATP, merci Mathilde de IMI va rouvrir à partir de demain une trentaine de stations de métro fermées depuis le confinement. Il en restera 24 non desservies.
Et tout a une fin, Florence, même Thiago Silva au PSG.
Et oui, c'en est fini pour le capitaine de l'équipe sous les couleurs parisiennes depuis 8 ans. Son contrat s'arrête cet été, révèle l'équipe. Et c'est évidemment une page qui se tourne pour le club Martin Bartoletti.
Thiago Silva ne sera donc pas exaucé. Le Brésilien souhaitait vivement prolonger sa carrière sous le maillot parisien, mais son compatriote en a décidé autrement. Selon l'équipe, c'est bien Leonardo, le directeur sportif du club, qui lui annonce la fin de l'aventure, avec un peu de rab, jusqu'à fin août, pour éventuellement disputer les finales de Coupe Nationale et le quart de finale de Ligue des Champions. Avec plus de 20 trophées sous le maillot rouge et bleu, le défenseur central de 35 ans s'est rapidement imposé comme un patron. Son sens du placement et son intelligence sur le terrain en font l'un des meilleurs défenseurs du monde. Parfois critiqué pour son mental, il jouait souvent les pompiers de service auprès des médias quand le bateau PSG sombrait. Ce départ marque la fin d'un cycle dans la capitale qui devrait s'accompagner dans les prochains jours d'une autre rupture. Le Paris Saint-Germain pourrait remercier Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l'histoire du club est lui aussi en fin de contrat.
Le PSG qui sera fixé la semaine prochaine sur la tenue ou non de son quart de finale de Ligue des Champions. Enfin, si je vous parle d'adolescente à Naples, vous penserez très certainement à l'immense succès littéraire d'Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. Elena Ferrante qui sort un nouveau roman, mais oublié, Lila et Lena, ces deux héroïnes de la saga. Ce nouveau roman reste à Naples, Ilana Mor Youssef, on y retrouve cette atmosphère, on y retrouve aussi une jeune fille, mais c'est tout à fait différent.
Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père déclara à ma mère que j'étais très laide. Première phrase d'une efficacité diabolique, tout y est, la séparation à venir et la blessure narcissique de Giovanna qui la conduira à transgresser l'interdit familial. Elle se met en tête de faire la connaissance de cette tante Victoria à laquelle son père la compare et avec qui il a coupé les ponts. C'est un pan occulté de l'histoire familiale qui ressurgit avec cette tante au caractère explosif, domestique de son état, installée dans un immeuble miteux des bas quartiers de Naples, alors qu'elle, Giovanna, a grandi avec des parents professeurs dans la ville du Haut. Elle découvre tout en vrac les arrangements et les faux-semblants sur lesquels reposent les vies d'adultes, le déterminisme social, la honte, le désir, la trahison, en un mot les grands thèmes de l'œuvre de Ferrante. Elle se sent moche, elle a un sale caractère et pourtant, elle voudrait être aimée, ce portrait d'une jeune fille dans sa traversée de l'âge ingrat et d'une justesse saisissante.
Et bah c'est formidable, on adore dire du bien des livres sur France Inter.
Et on a envie de lire celui-là. Merci Florence Paracuelos.